Bienvenue pour cette nouvelle soirée d'Avance au large en grand groupe. Ce soir, on a un intervenant extérieur. On a la chance d'avoir Monsieur Gilles Mézières qui vient nous parler d'un sujet un peu plus transversal qui est quelque part un témoignage sur la manière dont il vit sa foi dans son travail et comment aussi il voit la dimension chrétienne du travail. Si on a demandé à Monsieur Mézières d'intervenir, c'est parce que à la fois c'est un chrétien engagé et aussi parce que c'est un père de famille qui a des grandes responsabilités dans une entreprise. Vous êtes directeur général de Lactalis Europe et donc vous avez des grandes responsabilités au sein d'une grande entreprise. Et c'est beau pour nous. Voilà, c'est beau pour nous et puis pour vous qui vous préparez à vous engager dans un métier, d'avoir le témoignage d'un homme qui est à la fois engagé dans sa foi et dans son métier. Merci beaucoup.
Merci. Bonjour à tous. Je suis assez impressionné parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et puis le public est de qualité. Donc je vais essayer de faire le mieux possible pour être à la hauteur de ce que vous êtes. Je vais vous parler du travail, de comment je suis chrétien dans le travail, comment j'imagine qu'on peut être chrétien dans le travail. Je vais aussi vous parler un peu d'éducation. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, comme le disait Don Armand, je suis père de famille. Et en fait, mon dernier fils a 18 ans. Donc l'an dernier, il était là. Et un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est Augustin. Et en fait, je risque d'être parfois un peu paternaliste, de vous dire des choses que je sens comme si je les disais à mes enfants. Donc voilà, après vous en profiterez ou pas, ça vous intéressera ou pas, au moins ce que je vous demande peut-être c'est d'écouter et puis vous dire à la fin, bah, finalement c'était intéressant, c'était nul, ça ne m'a pas plu, au pire vous avez perdu trois quarts d'heure, c'est pas terrible non plus, c'est pas très grave dans la vie de perdre trois quarts d'heure. Au mieux c'était bien, et ça va vous servir demain ou pendant trois semaines ou six mois. Et au génial, génialissime, dans cinq ans quand vous aurez un choix à faire, vous direz, mais le mec qui m'a parlé dans la sacristie de la cathédrale, il y a un truc qu'il a dit, ou deux trucs. Là, ça, je m'en rappelle. Et ben, si jamais ça arrive ce soir, je suis comblé. Si je vous dis deux, trois trucs dont vous vous rappellerez dans deux ans, cinq ans ou dix ans, je suis un homme heureux. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Ça doit marcher comme ça. Donc, je vais vous parler de travail, comme je l'ai dit. Et aussi, je vais prolonger en disant, en essayant de réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut devenir, et en quoi l'instruction, l'éducation peuvent nous aider à être bien dans le travail. Alors, 53 ans, marié, 4 enfants, ça fait 30 ans que je suis dans le groupe Lactalis, ce qui prouve au passage, puisque vous avez dû entendre pendant 2 ans parler dans les médias du groupe Lactalis, c'est possible de travailler dans ce groupe-là, d'être heureux et d'y rester 30 ans. Et je n'ai pas prévu de partir. Donc ce qu'en disent les médias, il faut faire la part des choses. Donc j'ai passé 10 ans en France, 10 ans en Espagne, et 10 ans depuis que je suis rentré d'Espagne, je suis DG Europe. Donc en France, j'ai commencé comme commercial terrain, chef de secteur. J'avais fait une école d'ingénieur, j'ai commencé commercial avec ma voiture dans les supermarchés. J'ai gravi des échelons en France, puis on m'a emmené en Espagne où je suis devenu directeur commercial, DG, puis je suis rentré et on m'a nommé directeur général Europe. Alors, le plan de mon intervention, 4 points. Le travail, c'est quoi ? Un peu de théorie, selon ma façon de voir. Je parle avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un pro du travail. Je ne suis pas un pro du chrétien. Pour le chrétien, il y a Don Armand qui est là. Je parle avec mon cœur et avec ce que je ressens. Donc, évidemment, vous faites la part des choses, puisque ça vient de moi. D'accord ? En deux, comment j'agis dans l'entreprise ? En trois, comment je sais ce que je dois faire? Donc là, je vais parler d'instruction, d'éducation. C'est peut-être cette partie-là qui va vous toucher le plus. Et puis après, je vais essayer de vous dire si on peut se dire, déclarer qu'on est chrétien au travail. Alors, qu'est-ce que le travail? Quelques définitions. Je vais essayer de vous montrer rapidement qu'en fait, les visions civiles et religieuses se rejoignent. La religion dit, alors c'est un condensé très fort que j'ai lu dans une encyclique, dit « l'homme travaille pour se nourrir ». Se réaliser et transformer le monde. Ok ? Ensuite, je suis allé voir le Larousse. Le Larousse dit « Le travail est une activité appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. » Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'en fait, déjà, qu'il y a des choses qui se ressemblent un petit peu. Hein ? l'idée de transformer le monde, de produire, de nourrir. Et puis j'ai surligné le mot création, parce que quand on prolonge en encyclique, on trouve ça, et on trouve cette phrase, et plus profondément, le travail a une valeur spécifique car il est réalisé par une personne capable d'inventer et de créer à l'image de Dieu. Donc vous voyez que dans la définition civile, vous trouvez la création, et vous la trouvez également dans cette seconde partie de ce que j'ai lu dans l'encyclique. Oui, le travail, en fait, c'est participer à la création. Donc nous sommes dans le travail co-créateurs du monde et Dieu nous demande de nous accomplir dans le travail et de créer dans le travail. Voilà. Je regarde un peu mes notes pour ne rien oublier parce que ce serait dommage. D'accord, excusez-moi. Donc voilà, l'idée c'est la co-création. Donc le civil et le religieux se rejoignent. Donc il n'y a pas un monde de ceux qui seraient des travailleurs et puis un monde de ceux qui seraient les chrétiens. En fait, ça fusionne tout ça. Et la Bible continue, dès le récit de la création, une mission confiée à l'homme. Il est chargé de remplir la terre et de la dominer. Donc dans le dessein de Dieu, la vocation, le travail, correspond à la vocation de l'homme. Et là, je veux vous dire quoi ? C'est qu'on peut pas être, on est, nous tous, un seul. Donc moi, je ne peux pas dire, le dimanche, je suis chrétien, une journée, et puis les six autres jours de la semaine, je ne suis plus chrétien. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on a été créé, alors, et pour être chrétien, si on a la foi, et pour travailler. Donc, l'homme qui est dans le travail va être le même que celui qui est chrétien et vice-versa. C'est pour ça que dans le travail, j'essaie de vivre comme un chrétien. En plus, ça me donne un peu de cohérence à ce que je fais. Alors, comment j'agis dans l'entreprise ? Premier point important, à mon avis, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le principal du travail, c'est un travail bénévole. Il y a un travail gratuit. Quand on fait les repas, quand on jardine, quand on éduque ses enfants, quand on est au secours catholique bénévole, quand on fait du bricolage, on fait du travail et il est gratuit. Donc l'essentiel du travail est gratuit. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé ça. Donc pour ceux qui ont des mamans, par exemple, qui ne travaillent pas, le mot est impropre, les mamans qui n'ont pas un travail extérieur travaillent. Vous savez pas ce que c'est de gérer les papiers de la maison, de gérer les problèmes de médecin, des rendez-vous avec des enfants, vous-même, de préparer le repas du mari qui arrive à claquer du soir, etc. Donc en fait, le principal travail que nous faisons tous, et vous aussi peut-être des aides aujourd'hui, il est bénévole. Deuxième élément, en fait, je distingue deux sortes de travail. Il y a le travail, labeur, domination, contrainte, poursuivre. Ça, c'est le travail un peu passif et un peu, je dirais, défensif. Donc, mon travail, OK, ouais, il faut que j'aille au boulot, ça me fait chier. J'en ai marre, il m'ennuie, à quoi ça sert, etc. Donc, ça, c'est le travail, je dirais, le travail pénible, pas le travail qui ne grandit pas. Je ne vous souhaite pas ce genre de travail, parce que ça va durer 40 ans, 45 ans. Il y a aussi le travail, quand on le prend différemment, qui est le travail, en fait, qui est une participation au progrès du monde et une expression de sa personnalité. Donc, à travail égal, vous avez deux façons de voir votre travail. Soit vous le voyez négativement, soit vous le voyez positivement, comme la participation au progrès du monde et à l'expression de sa personnalité. Et dans ce cas-là, dans mon travail, je vais donner le meilleur que de moi-même. Et dans ce cas-là, je vais savoir à quoi sert mon travail. Donc, l'idée que je développe ici, c'est qu'en fait, le travail, ça a du sens et qu'il faut donner du sens à son travail. Et je prends l'exemple d'un tailleur de pierre. Je suis un tailleur de pierre ou un constructeur de cathédrale. C'est une histoire vraie. Vous avez deux personnes, l'une à côté de l'autre, qui sont en train de bâtir un édifice. Donc ce sont deux tailleurs de pierre. Boulot tailleur de pierre, poum, poum, poum. Je taille des pierres toute la journée. Le deuxième, il fait exactement la même chose. Poum, poum, poum. Les mêmes trois, poum, poum. Même question posée aux deux personnes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton travail ? Ben moi, je suis tailleur de pierre. OK. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il répond ? Moi, je construis une cathédrale. Ils font exactement le même boulot. Sauf qu'il y en a un, peut-être parce qu'on lui a expliqué aussi. Peut-être parce que son manager fait en sorte que son travail soit valorisant, qui dit, moi, je construis une cathédrale. Donc, je vois où je vais. Je suis une pièce d'un édifice. Donc, on voyait bien qu'on est complètement dans ce que je disais sur la création. Donc, il y en a un qui est dans la galère, qui est dans le labeur, Et il y a l'autre qui dit, ben moi, je construis une cathédrale. Et ils font le même boulot. Vous voyez, dans l'entreprise telle que je l'ai aujourd'hui, il y a des gens qui vivent leur boulot, mes boulots, des boulots équivalents, de façon différente. Donc c'est important de comprendre ça, parce que ce que je vous souhaite, évidemment, c'est d'être d'être des constructeurs de cathédrales. D'accord ? Deuxième partie, comment j'agis dans l'entreprise. Alors ici, ce que je vais vous raconter, c'est des choses qui me concernent que moi. Je vais parler de mon poste de directeur général Europe chez Lactalis. Donc c'est pas forcément applicable ailleurs. Et c'est surtout, je vais parler de ce que c'est un manager, parce que je suis un manager. Donc l'essentiel de mon travail, c'est d'animer des équipes. Alors j'ai développé une petite théorie un peu personnelle. Donc les managers en général sont des leaders, donc j'emploie le mot leader. Pour moi, c'est quoi un leader et un bon manager? Il y a quatre dimensions. La dimension de l'être, la dimension du comportement, la dimension de la compétence et la dimension de l'entraînement, le leader-entraîneur. Je vais développer ça un petit peu pour vous. Donc, le leader dans l'être, là, on est dans la sphère personnelle. Qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je pense qui est bon pour moi dans le travail? Premièrement, c'est d'avoir une vie équilibrée, tête, cœur, corps. Le Seigneur nous a fait complet. Donc, on n'est pas ou une tête, ou un corps, ou un cœur. On est tout. Et donc, pour être bien dans son travail, je sais... Et j'essaie de me l'appliquer. Par exemple, je fais du sport. Je n'arrêterai jamais de faire du sport. Parce que je sais que quand je fais du sport, je libère mon stress, j'évacue tous mes problèmes, etc. J'en ai besoin. Il y a des gens qui vous disent, ah ben moi, le sport, j'ai pas le temps. Ah bon, t'as pas le temps, toi? Mais tu travailles pas plus que moi, pourquoi t'as pas le temps? Il n'a pas décidé de faire du sport. Donc, si vous décidez que le sport, c'est important, vous faites du sport. Point barre. Après, la tête, évidemment, il faut s'entretenir pour être toujours à jour dans son métier. Et puis aussi, le cœur. Alors, le cœur, c'est quoi? Qu'est-ce que je mets derrière? C'est l'amitié, c'est la famille, c'est les frères et sœurs. Et je vous dis, si vous passez du temps à entretenir votre cœur, c'est-à-dire à entretenir vos amitiés, à entretenir votre famille, vous serez beaucoup plus équilibré dans votre travail également. Donc, vous voyez, j'ai ça en tête en permanence et je ne renonce à rien. Donc, je fais gaffe, par exemple... de pas travailler le week-end. Qu'est-ce que je fais gaffe? Quand je fais ça, je fais attention à la partie cœur. Et c'est important. Je sais que si j'ai un problème à la maison, je suis pas bien dans mon travail. Donc tout va ensemble. Donc rééquilibrer travail personnel, travail entre le travail et le personnel. Donc c'est une question de décision. J'ai décidé, par exemple, je ne travaillerai pas pendant les vacances. Je lis pas mes emails pendant les vacances. Quand je suis à table, j'ai mon portable sur la table ou pas? Question pour vous également. Est-ce que les gens qui sont autour de vous, quand vous déjeunez, vous intéressent? Ou est-ce que vous êtes avec votre portable? Posez-vous la question. Et comment vous entretenez la relation que vous avez avec les gens? Donc, comment vous entretenez votre bien-être si vous checkez votre portable? C'est une question, je n'ai pas la réponse, vous l'aurez sans doute chacun. Aimer ses collaborateurs, pour moi, c'est fondamental. Comment voulez-vous essayer de bien entraîner les gens, de leur faire du bien, si vous ne les aimez pas? C'est un basique, ça, hein, ce que je dis là. Ça vaut le coup de le dire quand même. Est-ce que vous avez remarqué que les bons entraîneurs de foot, en général, ils aiment les gens? J'ai rarement vu un entraîneur de foot en club qui n'aime pas les jeunes. Et s'il ne les aime pas, en général, il est mauvais. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est carrément vrai. Donc dans mon travail, c'est pareil. Si je n'aime pas les gens, comment voulez-vous que je manage les gens? Et comme par hasard, ce que je suis en train de vous raconter là, je l'entends dans l'Évangile. Là, je relis ça à ma situation de chrétien. Je l'entends dans l'Évangile, tout ça. Aimer les autres. Je l'entends, l'équilibre entre vie privée et vie personnelle. J'entends dans le sermon parfois, et vie de travail. Tout ça, je l'entends et l'Évangile me le fait vivre. Et puis après, il y a quoi? Il y a accepter ses faiblesses. Il y a, comme par hasard, je n'ai pas fait exprès, DPA parler des faiblesses aujourd'hui. Dans le travail, quand vous dites à quelqu'un que vous avez des faiblesses, c'est-à-dire, bah, en fait, ça, je ne sais pas le faire. Ou bien, en ce moment, ça va pas, j'ai un problème à la maison, j'ai un de mes enfants qui est malade. Qu'est-ce qui va se passer avec votre interlocuteur? Alors, il va vous dire, bah, je suis désolé pour toi. Et aussi, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va affirmer ses propres faiblesses. Donc, si vous reconnaissez vos faiblesses, vous permettez à celui qui est en face de vous de dire les siennes. Moyennant quoi, vous passez dans une relation de vérité. On n'est plus dans le blabla, dans le « je suis beau, je suis pas beau », on est en vérité. je suis faible, tu es faible, on parle de nos faiblesses si on cède. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et donc, en fait, la façon de vivre d'un chrétien, c'est aussi être en vérité en permanence, et c'est aussi savoir reconnaître ses faiblesses. On est d'accord avec ça ? Donc ça, c'est l'être que je travaille au plus possible pour être cohérent entre ce que j'entends quand je suis à l'Église, ce que j'ai envie d'être et ce que j'essaye de donner. Ensuite, il y a le comportement. Donc le comportement, alors j'ai toute une liste que je ne vais pas développer. Mais donc après, quand on est dans une boîte, on est obligé de délivrer des résultats. Je ne connais pas d'entreprise dans laquelle on peut dire plaisir. Ne vous inquiétez pas les gars, vous pouvez être cool. Pas de problème ici, s'il n'y a pas de résultat, ça marche quand même. Ça, c'est faux. Donc il y a un réalisme à avoir. Donc nous devons avoir une exigence de résultat. Mais, ça n'empêche pas d'être humain. Donc moi, j'écris en même temps exigence de résultat et exigence d'humanité. J'écris exemplarité. C'est quoi un bon chef ? Quelle est la meilleure façon d'être un bon chef ? La même façon que d'être un bon père. Imaginez un père de famille qui dit à son fils « Je veux pas que tu fumes. » Et il fume devant lui. On est d'accord ? Ça paraît un peu compliqué quand même. Enfin, moi, si je suis le fils, je dis « Attends, toi, t'es gentil. Tu veux pas que je fume, mais tu fumes. Qu'est-ce que tu me fais là ?» Il ne faut pas parler comme ça, mais en réalité, c'est quand même ça. Donc, un chef, c'est quoi ? C'est pareil. Donc, c'est dans l'exemplarité. D'accord ? Juger les actes et non les personnes. Par exemple, on entend parfois, oh, lui fait jamais rien de bien. Il arrive toujours en train. Le mot jamais, le mot toujours. Donc le gars, il est dans une case. Lui, va jamais y arriver. Non. Non. Cette action-là, tu l'as mal faite. Tu as mal fait les comptes rendus. Mais je ne suis pas en train de tomber dans le cage du gars qui arrive jamais. C'est un détail, mais c'est important. Donc en fait, je suis en train de dire qu'il faut faire, il faut respecter les gens, hein, parler aux gens tels qu'on aimerait qu'on nous parle. Après, je peux juger les actes, il n'y a pas de problème pour juger les actes, puisqu'évidemment, on veut s'améliorer. La dignité, donc évidemment, honnêteté, loyauté, justice, se remettre en cause pour avancer, ça me fait marre aussi, j'aime beaucoup ça, moi. Il y a des gens qui ont tendance à avoir le melon, ou qui ont tendance à penser qu'ils savent. Alors, les gens qui savent quel est leur problème, c'est qu'ils finissent surtout par savoir qu'ils ne savent plus rien du tout, parce qu'ils n'apprennent plus rien. Quand vous savez, vous ne remettez pas en cause. Donc vous n'allez pas écouter ce que disent les autres, vous n'allez pas chercher à comprendre et à entendre ce qu'ils ont à vous dire pour s'améliorer. En fait, vous n'améliorez plus du tout. Donc ne pas se remettre en cause, c'est ne plus avancer. Et c'est quand même dommage, surtout quand on veut participer à la création et faire quelque chose de meilleur. D'accord ? Et pas d'autorité sans confiance, je pense que ça vous comprenez ce que je veux dire par là. Ensuite, le troisième élément, c'est donc il faut être crédible et estimé. Leadership de compétences. Alors oui, quand on arrive dans un modèle quelque part, on a obligation de rentrer dans le modèle. Donc, c'est-à-dire respecter la culture de l'entreprise. La culture, l'entreprise, elle a ses objectifs, elle a ses règles, il faut les accepter. Si je ne suis pas content avec les règles de Lactalis, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça dure un certain temps. Et ça ne sert à rien de passer du temps sur des choses qu'on ne va pas arriver à changer. En général, dans la vie, je vous donne ce conseil-là. Ne passez pas trop de temps à vous taper la tête contre les murs pour faire changer des choses que vous ne pourrez pas changer. Et si vos parents, ils ont l'habitude de travailler comme ça, etc., qui fonctionne comme ça, etc., vous ne ferez pas changer. Par contre, passez du temps sur ce que vous pouvez faire changer. Vous voyez, ça ne sert à rien de se démotiver, désespérer sur des trucs qu'on ne peut pas faire bouger. Il y a des règles, il y a des choses qui fonctionnent d'une façon, on ne va pas les faire changer. La compétence, c'est aussi l'écoute, c'est l'engagement, parler et écrire. Donc moi, je m'applique ça. Il y a des gens qui disent, bah, il faudrait qu'on fasse ça. Ouais, on l'a fait, puis qu'ils écrivent pas, ils confirment pas. Donc quand ils confirment pas, si ça n'a pas été bien fait, on va pouvoir leur dire, mais tu te rappelles, t'as mal fait le truc là. Ah bah non, j'ai pas fait. Si c'est écrit, là, c'est différent. L'écrit engage. L'écrit oblige à être, à préparer beaucoup plus ces choses, d'accord ? Donc en fait, je dis ça. Pour vous dire que il y a aussi un effort à faire pour être crédible et pour faire ce que l'entreprise veut, c'est-à-dire avoir des résultats. Ok ? Et dernier élément sur ça, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il dirige et il sert. Et là, on retrouve également quelque chose qu'on lit dans les évangiles. Les chefs qui ont des problèmes d'ego, qui ont des problèmes de pouvoir et qui sont, ne visent qu'une seule chose, c'est avoir la position, avoir le pouvoir, être beau comme un cop, etc., ils oublient que leur rôle, comme celui de n'importe quel N-1 qu'ils ont, c'est d'abord de servir une cause. Quelle cause on sert ? On sert la cause de l'entreprise et on sert aussi, comme je disais tout à l'heure, la création, à faire quelque chose de mieux. Donc le travail, c'est pas faire des euros et puis pour vivre, bien sûr qu'il est faux, mais aussi participer à un truc qui doit grandir, qui doit être mieux demain que ce qu'il était hier. Donc il y a une notion de service qu'on trouve évidemment dans l'Évangile, très clairement. Il veut faire grandir ses collaborateurs, il identifie le potentiel, la relève, bon voilà, je passe, et puis il explique, il accompagne, il évalue et il forme. Pourquoi je dis ça ? Quand vous voulez respecter les gens, alors il y a des gens qui ne sont pas très courageux, des chefs qui ne sont pas très courageux, et qui n'osent pas ou qui ne disent pas aux gens ce qu'ils devraient entendre. C'est plus pratique, hein, c'est facile de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Respecter quelqu'un, respecter la dignité de quelqu'un, c'est lui dire, bah là mon gars, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je suis désolé, c'est pas bien. Je suis en train de t'évaluer. Ça fait plusieurs fois que là, ce truc-là, tu le répètes, tu ne le fais pas bien. Et je te le dis, je suis courageux, je te le dis. Donc je t'évalue. Par contre, derrière, évidemment, je le fais, donc ça c'est l'exigence, avec bienveillance, je vais lui dire avec les formes qui conviennent, et surtout je vais lui proposer un plan d'amélioration. Donc c'est ça, respecter les gens. Et ça, où est-ce que je le trouve ? Je le trouve dans l'attention que je porte au prochain. C'est également évangélique. Donc en fait, tout ce que je vous dis là, je trouve la nourriture de ce que je vous dis là dans la participation à la messe dimanche. Ça me nourrit. Donc, je veux vous dire que ça me travaille et j'y pense régulièrement. Je le trouve, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Une fois par mois, on a des réunions. On se réunit donc entre chrétiens, dirigeants ou enfin salariés pour parler de notre foi, parler de problèmes qu'on a dans la vie. Ça m'aide, ça me donne une boussole. Il y en a toujours un dans la réunion qui me donne une bonne idée. Et puis on prie, d'accord ? Voilà, bon, je continue. Troisième élément, troisième chose, donc c'est le... excusez-moi. Ouais, j'avais dit ça, cette petite phrase-là, que j'aime bien. C'est quoi un chef pour moi, un leader ? C'est quelqu'un qui, la première chose qu'il fait, c'est définir la réalité, c'est-à-dire le diagnostic. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. La dernière chose qu'il fait, c'est dire merci. Ouais, merci. Et entre deux, le leader, c'est un serviteur. Si j'arrive à travailler comme ça, mais je vais avoir des équipes derrière moi à fond les ballons. Oui, parce qu'ils comprennent la situation de départ, ils comprennent où ils vont. À la fin, je dis merci. Et entre deux, on travaille en équipe, on est tous les serviteurs des uns des autres. Et donc, c'est possible. Je ne suis pas en train de vous faire une théorie inapplicable. Hein. Vous voyez, j'emploie des mots qui sont assez simples. Hein. Ça marche, c'est possible. Alors, maintenant, je vais parler un peu d'instruction. Donc, comment je sais ce que je dois faire ? Alors, c'est une invention de ma part. Hein. J'ai un contrat de base pour moi, c'est m'instruire pour devenir ce que je suis. Après, je développe. Ensuite, point numéro 2, mon contrat plus. Pour faire la différence et pour être solide, j'ai l'éducation. OK ? La première idée, c'est qu'on voit que dans l'instruction, c'est un truc qui est un peu standard. L'éducation, c'est un truc qui va être plus me concerner, moi. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai toute ma vie pour être heureux. D'accord ? Alors, le contrat de base, c'est l'instruction. Je crois, c'est personnel, que nous sommes tous faits pour être idéalement quelque chose. Donc, chacun dans la pièce... Vous êtes idéalement fait pour être idéalement quelque chose. Le Seigneur l'a voulu. Après, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, même sur le plan humain, déjà croire ça, ça me paraît assez facile. Alors, ça peut être un métier intellectuel, un métier manuel, un métier spirituel. Donc, je peux être chauffeur, je peux être prêtre, médecin, ingénieur, directeur, ouvrier. L'idée, c'est qu'il y a un truc qui est idéalement fait pour moi. Donc, dites-vous que vous êtes un aujourd'hui, fait idéalement pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, vous peut-être pas encore, mais vous êtes idéalement fait pour quelque chose. Après, nous sommes tous des poupées russes. Alors, j'ai pris mes petits accessoires, des boîtes plastiques, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord ? Ça, c'est juste pour que vous mémorisiez. Donc, nous avons tous des capacités différentes et ce n'est pas un problème. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire ici qu'il vaut mieux être directeur DG, prêtre, médecin, ouvrier, menuisier. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être ce qu'on est, ce pour quoi on est idéalement fait. Vraiment. Hein ? Donc, on a tous des capacités différentes. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit ce pour quoi on est fait. Vous êtes bien d'accord que si vous êtes bon au foot et vos parents vous poussent à faire de la natation, vous allez probablement être mauvais en natation. Ah oui, enfin moi, je n'étais pas fait pour faire de la natation. J'ai les épaules de merde. Enfin voilà. Par contre, au foot, c'était mieux. Voilà, donc j'étais idéalement fait pour faire du foot. Dans le boulot, c'est pareil. Donc, c'est quoi vos trucs ? Il faudra chercher. Et puis, j'ajoute, bien sûr, tous les métiers sont beaux. Ben oui. Parce que quoi ? Pourquoi ? Alors, pour les chrétiens, parce qu'ils ont la foi et tous les métiers sont faits pour participer à la création. Donc, il faut des menuisiers, des médecins, des prêtres, des DG, des agriculteurs, etc. Bien sûr qu'il faut tout le monde. Donc, tous les métiers sont beaux. C'est important de vous dire ça parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de compétition, où on peut éventuellement de temps en temps sous-évaluer les métiers industriels, je dis effectivement, les métiers manuels et compagnie. Mais ce n'est pas le problème. C'est quoi le problème ? Ce qui compte, c'est d'être heureux, non ? Alors, pardon, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec cette phrase ? Si nous faisons ce pour quoi nous sommes faits, nous le ferons bien et sans doute serons satisfaits. Ça revient à mon exemple sur le foot. Si on me force à faire la natation, que je ne suis pas fait pour la natation, ça va me gonfler. Hein. Je vais arrêter la natation, ça ne va pas aller. Si je suis fait pour le foot, je vais être bien dans le foot. Dans le travail, c'est pareil. Donc, si je fais ce pour quoi je suis fait, ça va aller. Je vais être content. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher. Donc, il faut chercher. Il faut apprendre et s'instruire pour grandir et arriver à savoir faire ce pour quoi on est fait. Donc là, il y a beaucoup d'étapes qui vont se passer pour vous, comme pour moi, dans le passé. Donc, il faut parler avec des gens. N'hésitez pas à parler des métiers des gens. Quand vous rencontrez les gens, parlez de leur métier. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que ça m'intéresse ? Parlez vos frères et sœurs, vos parents, vos oncles, vos amis. Moi, dans la rue, si vous me croisez, vous pouvez me demander ce que je fais. Je vais vous le dire, on va en parler. D'accord ? Et puis, les petites boîtes rentrent dans les grandes boîtes et pas l'inverse. Alors là, arrive ma théorie. Vous voyez, cette petite boîte, j'arrive à la mettre dans la grande. J'ai essayé plusieurs fois de faire l'inverse, ça ne marche pas. Je ne peux pas mettre la grande dans la petite, on est d'accord avec ça ? Après, les poupées russes, c'est pareil. Donc, c'est Ribéry, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus intelligent de la course, celui-là, mais c'est pas grave. Donc, c'est pareil, la petite poupée russe, elle ne peut pas rentrer dans la grande. La petite, elle rentre dans la grande, mais la grande ne rentre pas dans la petite. Donc, une fois qu'on détermine un peu ce qu'on a envie de faire, on va au bout et on essaye de faire la plus grande boîte plastique qui nous correspond. Deux exemples. Si je veux être menuisier, parfait. Je vais faire une école de menuiserie. Dans l'école de menuiserie, il y a tous les éléments qui travaillent le bois, les outils, machin, etc. Vous allez faire il y aura beaucoup de travaux pratiques. Ça, en général, c'est génial. Dans les écoles de menuiserie, il y a aussi des cours pour la gestion. Des cours peut-être sur la gestion des assurances, sur comment obtenir des subventions, etc. Ça, c'est plus théorique. Et en général, parfois, les gens, ils bossent les côtés manuels parce que c'est le truc qui leur plaît. Ils bossent pas les côtés théoriques. Résultat, ils commencent dans la vie et un jour, ils disent « Mais moi, je voudrais monter ma menuiserie. Ça me plairait, ça ?» Ah ouais, sauf que j'ai pas suivi des cours de comptabilité, j'ai pas suivi des cours de gestion, j'ai pas suivi les cours, donc en fait, il manque un bout. Donc, pour être menuisier, si vous voulez être menuisier, vous serez menuisier, il n'y a pas de problème, mais faites comme si vous vouliez être chef menuisier, comme si vous vouliez monter une boîte de menuiserie, grande. Après, vous voulez pas la faire, c'est pas le problème, vous savez faire ça. Vous voulez être menuisier, simple menuisier, vous serez simple menuisier. Quel est le problème ? Mais construisez d'abord la plus grande boîte que vous pouvez. Vous êtes d'accord ? La petite boîte rentre dans la grande, et pas l'inverse. Deuxième exemple, je suis fils d'agriculteur. J'étais un fou d'agriculture, je vous dis vraiment, vraiment, vraiment. Jusqu'à la troisième, tous les soirs, je rentrais, goûter, chocolat, banane, et j'allais avec mon père bosser dehors. Tant et si bien qu'à la fin de la troisième, je voulais m'arrêter, je voulais faire un BEP agricole. Parce que j'avais envie d'être agriculteur. Et c'est vrai, ce que je vous dis franchement. Puis après, en seconde, je voulais faire un BTA, brevet technicien agricole. Mes parents m'ont dit non, non, Non et non. Tu as des capacités, tu vas pousser plus loin. Finalement, j'ai fait une école d'ingénieur agricole à Beauvais. Je suis devenu ce que je suis. Peu importe. Ce que je sais, c'est que si j'avais voulu être agriculteur à la fin de mon école d'ingénieur, je pouvais le faire. Je pouvais le faire. Donc, nos problèmes. Je suis allé au bout. D'ailleurs, il y en a à peu près 1 sur 5 qui, quand ils sortent de l'école d'ingénieur d'agriculture, sont agriculteurs. Donc, c'est bien. Si je veux être agriculteur, je suis agriculteur. Par contre, si j'avais été arrêté à mon BEPA et mon BTA, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et comme j'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît, j'aurais raté un truc important. Donc en fait, j'aurais pas construit ma grande boîte et je serais avec ma petite boîte. Ma petite boîte, c'est pas péjoratif. Je serais avec une boîte qui ne correspond pas finalement à ce que j'aurais pu faire. Et peut-être que dans le dessein de Dieu, c'était mieux que je fasse ce que je fasse, ce que je suis en train de faire, pour faire du bien parce que je produis plus de bien. J'en sais rien. En tout cas, je construis ma plus grande boîte possible et après, je fais ce que je veux avec mes boîtes. Je peux décider d'être agriculteur. D'accord ? Vous comprenez ça ? Si vous êtes d'accord avec ça, je suis content. Bon, voilà. Après, je ne veux pas avoir à faire fondre ma boîte plastique plus tard. Alors là, je m'amuse. Je dis ça parce qu'on voit beaucoup de gens dans mon expérience, et vous direz la même chose sans doute, des gens à 25-30 ans qui disent « Ah ben merde !» En fait, ouais, j'aimerais bien, j'aurais aimé faire ça, mais je suis con, j'ai pas bossé en seconde, première, terminale, je faisais rien, j'ai glandé, etc. Je peux plus, quoi. Alors, faire fondre sa boîte, c'est quoi ? C'est qu'à 30 ans, vous avez des gens qui se remettent en formation. Putain, faut quand même être con, excusez-moi l'expression. Là, vous êtes aujourd'hui sur les bancs d'école. Vous pouvez tout faire. Tout faire. Vous arrêterez en terminale, vous ferez un BTS, vous ferez j'en sais rien ce que vous ferez. Ce qui vous convient le mieux. C'est quand même dommage de ne pas faire aujourd'hui ce que vous pouvez faire aujourd'hui et se dire, quand vous aurez 30 ans, parce que je vous dis, recommencer à se mettre sur les bancs d'école à 30 ans parce qu'on n'a pas assez bossé à 16 ans, c'est pas sympa du tout. Il y a des gens qui ont des familles, etc. Donc ils sont obligés de recommencer. Enfin, ils retournent à l'école et tout. Enfin, c'est galère. Parce qu'ils ont quand même envie de venir ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire quoi ? C'est que ces gens-là, en général, ils sont pas dans le boulot qui leur convient. Ils sont pas dans leur boulot idéal. Et donc, ils veulent aller dans leur boulot idéalement pour lequel ils sont faits. Donc, il faut qu'ils rebossent. Donc, ne faites pas refondre vos boîtes dans 30 ans. Faites le job aujourd'hui. Conseil. J'ai dit ça à mes enfants. Conclusion. Alors, voilà. Nous sommes tous utiles. Soyez-en conscients. L'essentiel est déjà en vous. Faites-le grandir. Eh oui, vous êtes déjà avec un potentiel énorme. Vous avez juste qu'à exploiter ce que vous êtes. Encore une fois, je ne juge pas du métier. Faites ce pour quoi vous êtes idéalement fait. C'est en vous déjà. Et faites-le grandir. Et ne faites pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Décidez tous les jours. Autrement dit, demain matin, vous décidez de travailler ou pas. C'est vous, tout seul. Vos profs vous disent qu'il faut relire les cours en général avant de se jeter dans les exercices. Vous le faites ou vous ne faites pas ? C'est vous tout seul qui décidez. Mais pensez à vos boîtes plastiques. OK ? Ensuite, devenez la boîte plastique la plus grande possible, celle qui vous correspond. Pour moi, ce n'est pas une question de taille de boîte, on est d'accord. C'est la boîte plastique qui vous correspond. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout le monde demain doit être médecin, directeur, je ne sais pas quoi. Important. Parce que tous les métiers sont beaux. Et que si vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes fait, vous ne serez pas heureux. Ensuite, alors, maintenant, on va parler d'éducation. Parce que toutes les boîtes plastiques ou Pauperus instruites de la même façon sont toutes égales. Ouais. Tous les menuisiers, toutes les formations de menuisiers, ça fait les mêmes personnes. Toutes les formations d'agriculteurs ou d'ingénieurs, ça fait les mêmes personnes. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'éducation. Est-ce qu'elles sont toutes heureuses ? Est-ce qu'elles sont toutes efficaces ? Ben évidemment non. Ce qui fait la différence, c'est l'éducation. Vous êtes d'accord avec moi que on a tous un niveau de formation égal quand on a fait la même école. Ce qui va faire la différence plus tard entre vous et avec les gens qui vous entourent, c'est votre éducation. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce que j'ai derrière ça ? Encore une fois, avec toute humilité, c'est votre contrat plus. Le contrat standard, c'est de faire le maximum pour le boulot, ce pourquoi vous êtes fait. Le contrat plus, c'est votre éducation. Donc, l'homme, c'est quoi ? C'est la créature qui est la plus complexe sur Terre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une tête, un cœur et un corps. C'est pas un hasard. Donc si vous laissez tomber une des parties, c'est pas bon. Donc moi, je parle de chaise. Je vais parler d'une chaise à quatre pattes. Je vais aller plus vite. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma chaise? Les quatre pattes de ma chaise, c'est quoi? Encore une fois, c'est le cœur, le corps, la tête et l'âme. D'accord? Dans la chaise, elle est là. Je suis assis. J'ai un dossier. C'est très confortable. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis ça? Parce que la chaise à quatre pattes, c'est stable, c'est confortable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je vous dis, développez vos quatre pattes. Qu'est-ce que je mets derrière les pattes? La tête, donc c'est l'école, c'est la lecture, c'est Internet intelligent. Internet intelligent, donc vous pouvez vous marrer sur Internet. Il y a aussi l'Internet intelligent qui permet d'accéder à la connaissance. C'est la formation d'entreprise. Ben oui, je pense sincèrement que si vous voulez vous éclater dans vos boulots, il faut toujours s'entretenir intellectuellement. Pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un dit matin, faut s'entretenir intellectuellement. Non, c'est que les autres, ils avancent. Et le marché avance. On ne vit pas dans un monde où il n'y a pas de concurrence. D'accord? Donc on s'entretient intellectuellement. Deuxième patte, le corps. C'est un bien précieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le sport, le respect de soi-même, vous êtes beaux. Tous beaux. Si je faisais une mauvaise blague, même les laids sont beaux. Même les beaux sont laids. Voilà, on s'en fout. Vous êtes tous beaux. Donc entretenez-vous. Si vous ne faites pas de sport, si vous n'entretenez pas votre santé, vous aurez un problème dans le travail. Et vous aurez un problème dans la vie en général. Parce qu'on est fait comme ça, on est fait complet. Le cœur, donc j'en reviens dessus. Vous voyez quand même que ce que je vous dis ici, je vous ai dit ça pour mon boulot tout à l'heure. Je m'appliquais à mon être, je m'appliquais tout à l'heure en termes de leadership, ces éléments cœur, corps, tête, et je vous dis la même chose pour l'éducation. Ma famille, mes amis, mes relations, c'est important. Vous ne pouvez pas être bien dans la vie, vous ne pouvez pas bien travailler si vous n'avez pas des amis. Je sais qu'il y a des familles aujourd'hui qui souffrent certainement. Ok, vous avez des parents, vous avez des grands-parents, vous avez des amis, cultivez-les, c'est très important. Et j'ajoute une dimension que certains n'ajoutent pas, qui est la dimension de l'âme. Pourquoi j'ajoute l'âme? Parce que moi, j'aime bien savoir d'où je viens et j'aime bien savoir où je vais. J'ai besoin de ça pour vivre. Et ma foi, c'est quoi? C'est que je me dis, je viens de Dieu et j'y retourne. Je viens de Dieu et j'y retourne. Donc, entre deux, je cultive mon âme également. Et ça m'aide à vivre et ça m'aide à être heureux. Donc, en fait, c'est quoi? C'est la pratique religieuse, c'est la prière, c'est l'appartenance à un groupe, comme je vous disais tout à l'heure, comme les EDC, etc. Alors, bien sûr, quand je parle de chaise, pour moi, je ne parle pas de petite ou de grosse chaise. Je reviens à ma théorie tout à l'heure. Hein. C'est que je peux être menuisier, médecin, prêtre, agriculteur, on s'en fout. Mais par contre, je cultive mes quatre pattes. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Donc, des conséquences aux quatre pattes, c'est confortable, j'avance, je suis heureux, équilibré. Trois pattes, je suis assez stable, mais c'est quand même un peu moins confortable, il n'y a pas le dossier. C'est compliqué de mettre un dossier sur un tabouret. D'accord? Par contre, sur un tabouret, on est stable. Mais c'est quand même un peu moins confortable. Donc, c'est plus facile à faiblir et c'est plus vulnérable. Je dis ça, malheureusement, pour les gens qui n'ont pas la foi. Certaines personnes ne cultivent pas leur âme. Peut-être ne savent-ils pas ce qui leur manque. Sur deux pattes, là, je peux vous dire, ça commence à être compliqué. On est d'accord? Né assis sur deux pattes pendant une demi-journée. C'est mort. Donc, si vous ne cultivez pas au moins trois pattes, c'est foutu. D'accord? Et puis, sur une patte, alors là, effectivement, pardon, je suis passé trop vite, je tiens plus, je m'effondre. Au sens propre du terme. Si j'ai pas fait gaffe à ma santé, il y en a que ça n'intéresse pas. Ça y est, je suis foutu. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Si je fais pas gaffe à ma santé, ben je vais m'effondrer. Si je ne suis pas au niveau intellectuel, ce que demande mon métier, donc si je ne m'entretiens pas un minimum, je ne suis pas en train de dire un truc de fou. Si je ne m'entretiens pas un minimum, je suis foutu. Je ne vais pas suivre le marché. Donc ma boîte va me dire, mais tu as perdu ta compétence. Et en ce qui me concerne, si je n'entretiens pas mon âme, je considère que je ne vais plus être un bon manager. Parce que tout ce que je vois dans l'évangile me sert au quotidien mon travail. Je vous l'ai montré avec les quatre éléments du leadership. Tout ce que je lis dans l'évangile m'aide dans mon travail. D'accord? Bon, conclusion, pour ça, construisez-vous aux quatre pattes. Soyez équilibrés dans vos choix de vie, ok. Et puis décidez ce que vous voulez. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Personne d'autre. Vous avez l'âge de décider. Donc, vous voulez le faire ou vous ne voulez pas le faire? Moi, ça m'est égal. Vos parents, finalement, ils ne vont pas pouvoir gérer ça non plus pour vous. Donc, qu'est-ce que vous décidez pour vous? Vous faites votre chaise ou vous ne faites pas de votre chaise? Vous faites un tabouret ou vous faites un truc à deux pattes, un truc à une patte? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez. Chacun est libre. Et puis, toute ma vie, pour être heureux, ben, c'est quoi? C'est parce que quand vous produisez du bien, le bien rend heureux et vous allez rendre les autres heureux. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous allez rester libre et la liberté rend libre. C'est quoi pour moi rester libre? C'est par exemple ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres. Quand vous mentez une fois, vous êtes obligé de mentir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que si vous êtes détecté sur le truc, vous avez fait un mensonge. On y revient deux jours après en disant « Tu m'as dit ça ». Non, non, c'est pas exactement ça. Vous êtes obligé de rementir sur le mensonge parce que sinon vous êtes foutu. Et là, vous n'êtes plus libre. C'est fini. Dans le travail, c'est pareil. Dans le travail, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas se mentir non plus, se penser plus beau qu'on est que ce qu'on est, avec un ego parce qu'on est devenu chef, et oublier que ce qu'on doit faire, c'est servir ses collaborateurs. Vous allez vous aimer, et vous aimerez les autres qui vous aimeront. Tiens, l'amour. Je parle d'amour, et je parle de travail. L'amour, c'est l'évangile tous les jours. Hein. La première personne qui a parlé d'amour, enfin, pour moi, c'est Dieu. Quoi. Et Dieu vit d'amour, et l'évangile, c'est l'amour. Et ben moi, je vous dis qu'on peut parler d'amour dans le travail ou vivre comme quelqu'un qui aime. D'accord? Et vous serez des tout-terrains. Alors, j'ai mis quoi? Des Mercedes, des buggy, des tracteurs, des miniatures. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux pas qu'on sorte de cette pièce en disant il faut qu'on soit ingénieur, médecin, machin. Ça, vraiment, c'est pas important. Retenez-le. Donc, vous pouvez être une voiture miniature, vous pouvez être un tracteur, un Mercedes, ça m'est égal. D'accord? Faites ce pourquoi vous êtes fait. Alors, maintenant je termine. Être chrétien au travail, alors comme par hasard, un chrétien heureux, ça donne envie d'être chrétien. Alors, je vais avancer, vous verrez pourquoi je dis ça aussi. Le bonheur, ça transmet. Quand vous voyez quelqu'un avec le sourire, vous avez envie d'avoir le sourire. Vous êtes d'accord avec ça? Et un chrétien, pour moi, normalement, c'est quelqu'un qui essaie d'être moins triste que les autres parce qu'il pense qu'il y a un truc après, qu'il y a l'espérance. D'accord? Et quand vous pensez à l'espérance, quand vous pensez que vous pouvez participer à la construction d'un monde meilleur, vous êtes en général plus heureux et vous générez plus de bonheur. Pardon, excusez-moi, il ne fait pas froid, pas chaud dans ces récits. Hein. Je comprends pourquoi ils ont des os. Hein. Donc, dans mon travail, je participe à la création, c'est ma vocation, ça me rend heureux. Donc, je reviens à l'origine de la définition. Comme je participe à la création, en général, créer quelque chose, ça rend heureux. Ok? Après, qu'est-ce que je fais? Alors, quand je mets prier, je prie. Demandez au Seigneur ce qu'il veut pour vous avant, pendant et après. Alors, il m'arrive de prier au travail. Je vous dis, j'ai parfois des réunions compliquées. Je prie avant la réunion. Seigneur, aide-moi à trouver les mots pour cette réunion que je sais qui va être difficile. Ou bien avant d'entrer dans le bureau de mon patron, bon, le Seigneur est avec moi là. On y va tous les deux à la réunion là. Ok. Je prie le matin, ça m'aide beaucoup. Je prie le soir, je vais à la messe. Et en fait, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez bien que je ne suis pas en train de dire qu'il y a le monde religieux et le monde civil. Hein. Vous avez vu que tout ce que je vous ai dit, ça connecte à fond avec l'évangile. Donc en fait, par la prière, je contribue à m'entretenir également dans mon travail. On peut parler de foi sans en parler. Alors, c'est parfois compliqué de parler de foi, je le reconnais. Et vous devez avoir ce problème également sur la cour d'école. Il faut trouver des petits moyens techniques. Alors, par exemple, c'est vous racontez vos vacances. Bah, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Le gars raconte son truc. Puis moi, je fais la même chose. Bah, moi, je suis allé avec ma famille, on a fait de la montagne pendant une semaine. J'ai fait une retraite à Paray-le-Monial. Et puis, je suis allé voir mes beaux-parents dans le Var. Alors, au pire, le gars, il va dire « Ah, c'était content tes vacances et tout, ouais, impeccable, ça ne sert à rien. » Il a quand même entendu « Retraite Paray-le-Monial ». Bon, il s'en fout, mais il a quand même entendu. Il a entendu. Je vous le dis, il a entendu. Alors déjà, il ne m'a pas flingué parce que j'ai dit que j'avais fait une retraite à Paray-le-Monial. Ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Il a entendu, il a fait une retraite, mais il s'en fout. Puis il y a l'autre qui va dire, mais attends, mais c'est quoi une retraite à Paray-le-Monial ? Qu'est-ce que tu fais dans ce truc-là ? Donc, je vous dis, ça m'est arrivé. Des gens qui ne sont pas pratiquants. Et ben là, ben, je t'explique un peu, puis on commence à rentrer alors plus ou moins en conversation. Et puis il y en a qui reviennent, qui posent la question, etc. Puis il y a ceux à qui vous racontez ça, qui savent déjà ce que c'est, et là vous partez dans une conversation géniale. Vous voyez, j'ai pas pris un risque énorme. J'ai dit pendant mes 3 semaines de vacances, j'ai fait une semaine montagne, une semaine parimoniale, une semaine dans le Var. Je vais pas me faire flinguer parce que j'ai dit ça. Mais j'ai créé un truc. C'est un exemple. Hein. Ensuite, il faut prendre son temps. Ne pas convertir trop vite. On ne peut pas, dans le boulot, se dire, moi, je suis chrétien, à la fin de la semaine, il y aura 5 chrétiens de plus dans cette entreprise. Les gars, je vous dis, c'est mort. Hein, les filles aussi. Hein, c'est mal, même pas la peine de l'imaginer. Donc, en fait, la conversion, parce que je pense qu'on est tous appelés à contribuer à la conversion, c'est un phénomène, quelque chose de très lent. Mais au travers de conversations, comme je vous le disais, petit à petit, on peut aussi toucher des gens. Après, moi, j'ai 2 autres petits objets ici. J'ai une petite crèche que j'ai achetée à Bethléem, qui est sur mon bureau, en dessous de mon écran d'ordi. Et puis, j'ai ça fait 2 ans parce que j'étais à Nazareth, à Bethléem. Et ça fait au moins 10 ans que j'ai ça sur mon bureau. C'est un petit cube que j'avais une convention des EDC, entrepreneurs dirigeants chrétiens. Ça veut dire que les gens... Alors, donc, j'ai pas mis un panneau avec une croix comme ça, hein, où on va dire, mais lui, c'est un malade. Par contre, il y a ça sur mon bureau. Alors déjà, je pense que la femme de ménage, elle le voit tous les matins. Alors, je sais pas ce qu'elle en pense, mais voilà. Et puis après, bah, les gens, quand ils viennent dans mon bureau, peut-être qu'il y en a qui le voient. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent ? J'en sais rien. Et personne n'est venu me voir un jour en me disant, poum, toi, je vais te tuer, est-ce que t'as mis une crèche dans ta truc ? Non, ça arrive jamais, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on peut prendre des petits risques, hein, si on parle de risques. Hein. Donc ça, c'est ce que j'appelle la conversion lente. Évidemment, si quelqu'un pose la question, mais pourquoi tu as ça sur ton bureau ? Ben, on va engager une conversation. Après, être généreux, aimer. Et en fait, donc, l'évangile, Dieu, c'est amour. Évangile, c'est l'amour. Quelle est la meilleure façon d'être chrétien en entreprise et d'être un peu missionnaire ou de convertir les gens ? C'est de se comporter en homme chrétien. Tout à l'heure, je vous disais, si le père de famille fume devant son fils et qu'il dit à son fils de ne pas fumer, il y a un gros problème. Si vous êtes chrétien et que vous ne vous comportez pas comme quelqu'un qui aime dans le travail, vous avez un gros problème. Donc en fait, la meilleure façon d'être missionnaire, de montrer que vous êtes chrétien, c'est que les gens, quand ils vous voient, ils disent, tiens, mais lui, il fait des trucs un peu différemment quand même. Mais pourquoi ? Donc je ne suis pas en train de parler de Dieu, mais j'agis selon ce que me recommande Dieu, on va dire ça comme ça. Autrement dit, par exemple, il y a des réunions, c'est vraiment chaud. Hein, et les mecs, enfin, ils font n'importe quoi. Vous avez 2 façons de le faire. Vous les flinguez, vous les bousillez, parce que vous êtes le chef. Hein, ou bien, vous dites, attends, là, il y a quand même une façon de faire qui n'est pas correcte. Comment on fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Vous mettez l'accompagnement, il faut qu'on arrête de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des gens qui se comportent comme de la première façon. Il y a des gens qui flinguent les autres dans le boulot. Je vous dis, il y a des chefs qui sont insupportables. Puis il y a l'autre qui fait différemment. Et au bout d'un moment, les gens vont se dire, mais attends, mais lui, pourquoi ? Il devrait s'énerver. Pourquoi il ne s'énerve pas ? Le pardon. Le pardon, c'est un sacrement. Pour moi, c'est le sacrement qui est le plus utile dans le travail. Et dans la vie de famille aussi, d'ailleurs. C'est quand même incroyable, d'ailleurs, qu'un des trucs qu'on fait le plus, qu'on devrait faire le plus dans sa vie courante, qui est de pardonner, soit un truc qui soit chrétien. C'est sympa la coïncidence. Ben oui, le pardon, c'est qu'on a tous le droit de se tromper. Et donc, en fait, la première chose qu'on doit faire quand on est chrétien, c'est, et ça rejoint l'amour, c'est de dire aux gens, je te pardonne. Je te pardonne. Donc moi, j'essaye, et pour ça, je m'entretiens, c'est-à-dire à travers la messe et compagnie, de pardonner aux gens, de reconnaître ses erreurs. Excuse-moi, je me suis trompé, je te demande pardon, je t'ai fait du mal. Voilà. Et au bout d'un certain temps, les gens vont dire, mais lui, il est quand même un peu différent. Vous voyez, je ne suis pas en train de prendre un risque énorme de dire, d'arriver avec ma croix en dire tous chrétiens. Mais dans mon comportement, les gens vont se dire, mais pourquoi il est comme ça ? Donc après, s'entretenir dans la foi tout au long de la vie, je crois que je l'ai fait. Il faut que j'arrête bientôt, peut-être non. Ok. Donc ça, c'est ce que je fais et le mouvement dans lequel je participe. Oui, la foi, ça s'entretient. Hein. Ne croyez pas que c'est comme le football. Hein. Vous avez tous fait ça. Je reprends l'exemple du foot. J'aime aussi d'autres sports, hein, le rugby en parenthèse. Mais si vous arrêtez de jouer pendant 3 mois, je veux dire que vous allez avoir du mal à reprendre. La foi, c'est pareil. Hein. Faut pas croire que on peut être bon, je dirais, bon chrétien sans s'entretenir. En plus, ça fait du bien. Donc, être confiant, pas arrogant. L'éducation fait la différence, retenez-le, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et restez libre, on ne fait pas faire n'importe quoi, ça c'est important aussi. Si à un moment donné, dans votre entreprise, on veut vous faire faire un truc que vous ne voulez pas faire, parce que c'est non conforme à la morale ou à l'éthique, vous avez le droit de dire stop. Et en général, si vous dites stop, vous allez poser un problème au gars qui vous a demandé de faire le truc. Attends, mais là, pourquoi lui, il me dit stop là ? Les autres, ils font ça n'importe comment, etc. Bah oui, il est différent. D'accord. Je ne sais plus où je suis là. Je finis par 2 citations. Voilà. Donc, vous retiendrez les boîtes plastiques et les chaises, peut-être. Ça, c'est pour vous, dans votre vie en général. C'est Churchill qui disait ça. Le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit d'échouer. C'est jamais fatal. Ce à quoi vous n'avez pas le droit, je dirais, c'est de ne pas avoir de courage. Et le courage, encore une fois, c'est vous qui décidez. Parce que vous avez du courage ou pas pour entretenir votre chaise, pour la faire, voilà, pour vous instruire, pour faire la boîte plastique. Et puis, 2e citation, que j'aime bien aussi, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux. C'est pas les autres qui vont faire pour vous. C'est pas toujours la faute des autres. C'est pas toujours la faute de vos parents, la faute de jeu. Non, des profs. Vous faites partie du jeu. Donc décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Décidez ce que vous voulez faire de vous. Voilà, j'ai fini. J'arrête.
Merci beaucoup, Agile. Monsieur Mézière, je pense que Doarmand vous a présenté tout à l'heure, Monsieur Mézière, Gilles, puisque l'acte de pardon est un acte chrétien, je vais te pardonner d'avoir pris l'exemple du football, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais enfin, bon. C'était important pour nous aussi que dans le cadre de la formation d'Avance au large, vous entendiez. Et je trouve ça plein d'espérance pour chacun d'entre nous. On pourrait faire intervenir beaucoup de personnes, hommes et femmes, parmi vous. Il y a un chrétien qui vit sa foi chrétienne, qui essaie de la vivre, comme nous tous aussi, dans un cadre qui n'est pas forcément spécifiquement attaché toujours à la foi. Et je dois dire qu'avec Gilles et avec d'autres, on échange par WhatsApp une prière tous les matins. Et Gilles le fait avec plusieurs groupes d'amis aussi. Et c'est une joie de savoir que, alors que l'agenda est très bien rempli, que le Seigneur tient la première place. C'est peut-être le sens de ce que tu as dit aujourd'hui dans ton enseignement.